de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est 30 minutes. 30 minutes pour parler de cinéma, pour écouter parfois des acteurs, mais aujourd'hui ce seront des réalisateurs. Il y aura Reda Kateb et Sean Baker. Alors pourquoi Sean Baker? Eh bien c'est parce que c'est le réalisateur américain qui a remporté la dernière Palme d'Or, Sophia, et nous avons vu tous les deux Anora, mais c'est toi qui vas en parler car c'est toi qui l'as aimé.
Et oui, tu es sorti beaucoup plus dubitatif de la salle de projection que moi.
Oui, vaguement en colère même, je crois, me souvenir. Oui. Et toi, Guillaume, c'est un film, un blockbuster.
Oui, qui ne transformera pas le genre, mais c'est Transformers, le commencement de Josh Cooley.
Manu, qui n'est pas avec nous, a vu Le Repli. Et moi, j'ai vu Sur un fil, premier film de l'acteur Reda Kateb. Et on aura donc l'occasion de l'écouter parce que j'ai pu le rencontrer. Mais nous allons débuter cette émission Cinérama avec La Palme d'Or, donc au dernier festival de Cannes, film de Sean Baker qui met en scène une travailleuse du sexe qui s'entiche d'un jeune russe plein de fric. C'est Anora.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinérama.
C'est vrai, oui ou non?
Une palme d'or, comme tu le disais, Vincent, un peu inattendue pour ce film saturé et audacieux qui a suscité autant d'enthousiasme que de scepticisme chez certains spectateurs, comme toi, qui, après la projection, semblait presque égaré face à l'expérience de cinéma proposée et la palme attribuée. Pour les fans de Sean Baker, c'est en revanche un nouveau coup d'éclat dans une filmographie déjà marquante, après des œuvres comme The Florida Project et Tangerine. Avec son actrice Mickey Madison, qui crève l'écran, Anora s'inscrit dans la lignée des portraits féminins intenses et vulnérables auxquels Baker nous a habitués.
Veux-tu m'épouser?
T'es sérieux, là?
C'est le gros lot, Frangine. Cendrillon.
Bah ouais, une putain de cendrillon.
Anora ou Annie, travailleuse du sexe d'une vingtaine d'années, est stripteaseuse dans un club où elle exécute des numéros d'effeuillage aussi suggestifs que spectaculaires. La scène d'ouverture pour preuve avec une performance hypnotique. Son patron l'invite à parler à Vania, un jeune client russe plein aux as, dont elle capte l'attention car elle parle un peu la langue elle aussi de par ses origines. Le film amorce ainsi le premier morceau de sa structure tripartite. Dans cette première phase, qui a tout d'une comédie romantique cliché, Sean Baker joue avec les codes des contes, teintant l'histoire de résonance au Disney. Annie s'illustre comme l'avatar contemporaine de Cendrillon, et sa rencontre avec son prince Vania, fils d'un oligarque russe, est une échappatoire à son univers de précarité. Cette transformation rappelle les tropes classiques du conte de fées, même si Baker la teinte de modernité et d'un réalisme particulièrement cru et référencé. L'atmosphère de cette première partie rappelle notamment celle de l'univers des clubs de striptease licencieux de GTA. Alors on n'est pas sur une référence filmique, je parlais évidemment du jeu vidéo. Les adeptes reconnaîtront des décors qui évoquent les célèbres strip clubs du jeu. D'ailleurs, l'univers saturé de couleurs de Las Venturas se transpose parfaitement bien à Las Vegas, où Annie et Vania s'enfuient avec une petite équipe extatique remontée aux substances illicites en tout genre. Là, le jeune homme demande Annie en mariage et elle dit oui. De retour, les deux tourtereaux s'installent dans l'immense maison familiale vide du jeune homme, reclus de tous, en lune de miel, avant que la réalité ne les rattrape.
Pendant 2 semaines, je te surveille pas et tu te maries avec une prostituée.
Mais qu'est-ce qui se passe, bordel?
Le père d'Ivan veut faire annuler ce mariage.
On ne va pas divorcer. Wow.
Impressionnant.
Les strass, paillettes et le montage saccadé utilisé par Sean Baker, qui convoquait bien l'imaginaire du trip, commencent à se dissiper. C'est la redescente. Les parents de Vania, ou Ivan, apprennent la nouvelle de leur mariage et pour rompre cette union, ils envoient 3 sbires russes, personnages qui semblent tout droit sortis d'un film des frères Cohen ou de Tarantino, mi-menaçants, mi-ridicules. Le trio fait irruption dans la bulle d'Annie et Vania et ce dernier, prince à la bravoure éphémère, se montre sous un jour lâche, fuyant la maison en laissant Annie seule face aux méchants. Les séquences s'allongent, Annie, séquestrée par ce trio, doit signer l'annulation du mariage et rendre tout ce que son mari Vania lui a payé avec les sous de papa. Elle se retrouve piégée, dans une spirale de menaces et de contraintes, perdue dans un univers de mensonges et de désillusions, auquel elle résiste farouchement, telle une fière héroïne hein, dont la colère s'active par l'injustice subie. Dernier acte, Annie traverse à bord de la voiture du gang des lieux désolés, dans des plans gris, statiques, longs, symbole de l'évolution de l'histoire, de l'euphorie des néons à la dureté de la réalité. La neige du petit matin s'allie par la nuit, le silence s'installe et Annie confronte ses blessures profondes. Sean Baker éclate ici le cadre traditionnel du conte pour laisser émerger une réalité sociale âpre et implacable. Annie incarne une Cendrillon réaliste, hein, à l'opposé total de la Pretty Woman aseptisée de Gary Marshall, car si le scénario original de 90 avait été respecté, le rôle de Julia Roberts aurait révélé toute la brutalité d'une précarité sans issue. Encore une fois, les personnages féminins de Baker portent la force de l'intrigue et dominent le récit. Dans Anora, les hommes sont passifs, infantilisés et peinent à grandir. Seul Igor, le Tchétchène issu du gang envoyé par les parents, se distingue par une sensibilité brute. Son lien avec Annie se tisse à travers leurs blessures communes, miroir l'un pour l'autre de leur trauma. Une seconde romance plus empreinte de fraternité homogamique que de passion.
Vous avez peur de cette gamine ? Venez pas me dire que vous êtes fait tabasser par une gamine !
Non !
Elle se bat pas comme une gamine !
Lors de la remise de la palme, hein, Sean Baker a salué les travailleurs travailleuses du sexe. Hein, dans le film, Annie utilise sa profession pour inverser les rapports de pouvoir, rééquilibrant un trauma que le film laisse subtilement deviner. Et c'est bien cette stratification, cette complexité nuancée et l'acuité de Baker à dévoiler les failles de son héroïne qui confère à Anora sa grandeur tragique. Un film engagé, féministe, mais aussi un anti-conte américain assez amer, où Baker dresse un portrait déchirant de femme puissante, condamnée par le poids écrasant de son déterminisme social. Un récit où l'illusion cède la place aux larmes dans un monde toujours hostile aux femmes.
Merci Sophia. Alors moi j'ai pas du tout eu cet avis. Moi j'ai trouvé le scénario m'a posé un énorme problème. Alors certes c'est une Cendrillon, mais le fait qu'elle croisse. En plus la mise en scène nous montre ce jeune. Il a 22 ans, jeune russe. Il est plein de fric. Enfin voilà. Il y a tout. Enfin il y a tous les indices pour être méfiant. Elle est absolument pas méfiante quand tu lui proposes d'aller se marier à Vegas. Elle y va. Enfin voilà. Elle le suit sans vraiment réfléchir. Enfin moi j'ai absolument pas cru tout ça et ça m'a complètement fermé. Alors, la mise en scène, je reconnais un côté brillant, les petits apports de comédie, alors certaines fois qui passent par la violence, parce qu'elle, elle se défend et ainsi de suite. Mais le scénario m'a laissé complètement sur place. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me raconter ? Et ce qu'il me raconte ne m'intéresse pas en plus. Enfin, moi, je n'ai rien pris de ce film. Et ça par contre, pour moi, c'est un vrai problème. Mais je pense qu'il est quand même bon d'aller voir cette Palme d'Or pour se rendre compte de la qualité de ce jury cannois, puisque ce n'est pas le premier film que je trouve un peu douteux dans ce palmarès. En revanche, ça ne nous empêche pas d'écouter le réalisateur américain Sean Baker, qui était évidemment l'invité du Festival de Cannes et qui a pu répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse.
J'ai grandi dans les années 80. Pretty Woman a sans doute eu un impact sur moi, ou c'était peut-être dans mon subconscient. Je ne sais pas.
Il paraît que tu parles russe, c'est vrai ?
Privyet, Iva !
Putain ! Je voulais te demander, tu travailles des fois en dehors du club ?
Dieu bénisse l'Amérique.
Pour moi, ce film est surtout un film à thème, pas à problème. Et je voulais explorer la notion de pouvoir et la dynamique du pouvoir. Oui, par rapport à Enora, elle est puissante et elle le sait et elle maîtrise bien ce pouvoir, même si le monde s'écroule autour d'elle.
Tu fais quoi dans la vie pour avoir tout ça ?
Mon père, c'est Nicolas Zakharov. Google-le.
Oh putain !
Oh putain !
Tu accepterais d'être exclusivement avec moi ?
J'en veux 15. Cash et payé d'avance. C'est que t'es genre... t'es drôle, quoi.
Cette histoire de comédie, cet équilibre, je pense que l'humour est nécessaire dans les histoires humaines. Ça fait partie de nos vies. On se sert de l'humour pour s'en sortir. Je déteste voir un film sans d'humour. Ce n'est pas très réaliste. D'où le défi. Il faut trouver le bon équilibre. Quand on veut raconter une histoire qui, au fond, est tragique, est-ce qu'il faut beaucoup d'humour et à quel moment dans le récit il faut trouver cet équilibre tout au long du film.
Nous écoutions Sean Baker, donc, qui est le réalisateur américain qui a remporté la Palme d'Or avec son film Anora en salle depuis le 30 octobre. Nous passons, alors presque sans transition, à un film qui était attendu hein, par les fans de la saga Transformers, qui pour moi est loin d'être réjouissante, mais pour toi, Guillaume, qui adore Michael Bay, l'est évidemment. Mais j'ai dans l'idée que cette saga aurait pu commencer eh bien, avec ce nouvel opus qui nous amène justement au commencement.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama. Cinérama. Cinérama.
Salut les gars, je suis B127. Je me cherche un pseudo plus sympa. Celui qui me branche en ce moment, c'est Badastron, qui en vrai se prononce
Badastron.
Quoi de mieux pour fêter son anniversaire qu'un film pour rendre hommage à son héritage ? Et oui, cela fait désormais 40 ans que les Transformers, alors la licence de jouets d'Hasbro, hein, pas le magnifique album de Lou Reed, hante les rayons des jouets, mais également les tubes cathodiques, avant d'avoir envahi littéralement le grand écran avec les films réalisés par Michael Bay et produits par Steven Spielberg. Alors ces deux hein, sont au générique de ce Transformers One, hein, ou Transformers Le Commencement chez nous, en qualité de producteur, et ont confié la réalisation à Josh Cooley, ancien nom important de chez Pixar, et désormais affranchi du giron de l'ancienne boîte créée par Steve Jobs. Alors si le patronage pendant des années de Pixar pouvait rassurer, on ne peut malheureusement pas dire de Cooley hein, qu'il en représente l'âge d'or, hein, car s'il s'est rendu coupable d'un abominable Toy Story 4 qui, à force de vouloir être inclusif, en devenait carrément rétrograde, qu'en est-il donc avec les Transformers quand il s'agit de redonner un coup de vidange dans de vieux rouages ? Autobots, rassemblement !
Si on s'en sort vivant, je te jure que je te tue !
J'accepte ces conditions !
Dans la cité d'Yacon, hein, Orion Pax et D16, deux mineurs d'Energon, vivent une vie d'esclaves sans s'en rendre compte. À la manière des ouvriers de Métropolis, ils vont chaque jour à la mine pour en retirer un matériau précieux censé aider au bon fonctionnement et à la préservation de leur planète, Cybertron. Alors Orion Pax hein, cherche malgré tout hein, des renseignements sur ce qu'il s'est passé avant que Cybertron, à sa surface, devienne une zone inhabitable gangrenée par une guerre. Alors son obstination hein, va lui faire découvrir une piste hein, quant à la disparition de la matrice du commandement, une sorte de Graal des Transformers et qui lui permettrait ainsi qu'à ses copains mineurs de se transformer. Car la particularité d'Orion Pax et de ses semblables est qu'ils ne peuvent pas se transformer faute d'une pièce manquante. Hein, ils vont finir par comprendre que cette pièce manquante, hein, elle n'est pas gagnée mais elle a été volée à la naissance de chacun, les transformant en prolo, prisonniers hein, de leurs conditions et donc esclaves pour l'éternité. Leur quête de l'artefact va les mener à la surface de leur planète, accompagnée hein, de deux autres énergumènes. Cette expédition devenue une aventure existentiel amènera Orion Pax et D16 à devenir respectivement, vous l'avez compris, Optimus Prime et Megatron, soit d'un côté le grand chef des Autobots et le grand chef des Decepticons, hein, des ennemis jurés hein, qui n'ont pas la même vision du monde et surtout de la façon de gouverner sur leur peuple et aux méthodes à employer pour maintenir leur pouvoir. Alors s'il n'y a aucune surprise narrative, hein, si on a compris qui est qui dès les premières minutes du film, hein, et les codes couleurs vous aideront à repérer qui sera le futur Optimus Prime, le futur Megatron ou encore le futur Bumblebee, Transformers Le Commencement a quelques atouts dans sa poche pour divertir petits et grands. Alors bon, les grands hein, ça sera pas trop dur hein, car ils seront en règle générale nostalgiques hein, de leurs jouets d'enfance et le dynamisme de la mise en scène les aidera à ne pas trop pleurer hein, l'absence de Michael Bay aux commandes, voire de Travis Knight hein, qui avait signé un très réussi Bumblebee après les 5 déflagrations de Michael Bay. Alors oui, j'oublie volontairement le Transformer Rise of the Beast hein, sorti l'année dernière d'une médiocrité confondante hein, dont la production industrielle rappelle malheureusement l'origine plus pécuniaire qu'artistique de la série. De plus, Industrial Light and Magic, hein, ILM, est à l'animation, soit les mêmes magiciens responsables des films live et dont le travail vieillit extrêmement bien. Rappelons que le premier Transformer de Bay a quand même 17 ans.
Vous vous êtes montré à la hauteur. Prenez ceci et atteignez votre plein potentiel.
Ils vont voir qu'avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences.
On peut se transformer maintenant!
À 3, 1, 3!
Pour les petits, le discours employé dans le film est extrêmement intéressant puisqu'il mêle d'une certaine façon Germinal avec Terminator. Alors il leur explique les rouages méphitiques et pernicieux de la soumission, de l'emprise physique comme idéologique et de la nécessité de mener une lutte des classes pour instaurer un régime sain et harmonieux. Travailleurs, donc montrer l'évolution différente des futurs Optimus Prime, celui qui va s'élever contre la haine, et Megatron, celui qui va y sombrer, est également un des points forts de l'histoire, montrant qu'il faut garder une éthique dans son combat au risque d'y perdre son âme et les valeurs défendues. Il est alors extrêmement dommage que ce fond soit dilué dans un humour poète-poète et constant, digne des pires travers de la formule Marvel et qui entache régulièrement ce message. Bah oui, comment condamner la violence de Megatron quand Bumblebee massacre puérilement des méchants en découvrant ses armes gadgets? Alors autant de dissonances narratives typiques d'une certaine écriture américaine et qui avait complètement coulé l'affreux Toy Story 4 après une trilogie parfaite et à la conclusion définitive. Ce Transformers Le Commencement est donc un sympathique spectacle pour les petits et grands enfants, mais je ne peux m'empêcher de vous conseiller d'aller voir aussi, en complément, un autre film de robot familial, lui particulièrement touchant et réussi sur toute la ligne, Le Robot Sauvage de Chris Sanders, toujours à l'affiche à l'heure où vous entendrez cette chronique.
Eh bien voilà, tu fais un pack de deux. Et sinon, est-ce qu'on entend les Rolling Stones dans le film, comme dans la bande-annonce?
Pas du tout, mais par contre, en VO, le casting est un peu plus sympa que le français, parce qu'il y a Scarlett Johansson, il y a Chris Hemsworth, je le confonds avec Evans régulièrement, Steve Buscemi, donc un ancien de Michael Bay, si vous aimez Armageddon, donc voilà, il y a quoi faire.
Oui, c'est-à-dire, après on pourrait ouvrir un débat, mais moi je suis pas très fan de la version originale sous-titrée sur des dessins animés, en fait.
Ah, mais ça dépend comment on veut le voir jouer, parce que je crois qu'en France c'est Philippe Lachaud qui n'est pas mauvais, mais bon, je pense que ça appuie plus le côté comique qui est déjà très présent pour moi, et c'est un peu une tare du film, qu'en VO, où il y a un côté plus sérieux au fur et à mesure que le film avance.
Transformers, Le Commencement est en salle et vous pouvez aller le voir, et bien évidemment. Allez, on passe maintenant au premier film de Reda Kateb, le comédien qui sort sur un fil.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Ça fait beaucoup de bien, Yacine, de vous voir.
Je peux te faire un bisou?
Et là, avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs.
Pourquoi ça arrive à moi? Tu sais, puisque t'es magique.
Après Céline Salette, Laetitia Doche, Daniel Auteuil et Gilles Lelouch et son amoureux, voilà encore un acteur qui sort son film. Et comme les comédiennes nommées plus tôt, il s'agit aussi de son premier film. Ce film, c'est Sur un fil, et son réalisateur, donc, c'est Reda Kateb, acteur polyvalent qui draine le cinéma d'auteur comme le cinéma grand public. Et pour son premier film, il est également bien sur ce fil avec une histoire simple et des moyens pour la montrer qui le sont tout autant. Il s'agit presque d'un film à thème, l'immersion à l'hôpital avec des clowns qui travaillent. Et là, est important, le verbe travailler, parce que les gens qui font de la BD, par exemple, à chaque fois on leur dit mais finalement, oui d'accord, tu fais de la BD, mais c'est quoi ton travail? C'est mon travail, la BD. Et toi tu fais du clown, c'est quoi ton travail? Je fais du clown, enfin voilà, c'est un travail. Donc ils travaillent dans les services où sont hospitalisés des enfants. Le prétexte de cette immersion, eh bien, c'est Jo, Aloïse Sauvage, une jeune femme artiste de cirque de rue qui nous le donne, ne pouvant plus exercer son art. Elle s'intéresse à ce que fait son collègue pour accomplir son statut d'intermittent. Eh bien, celui-ci, incarné par Philippe Rebaud, lui répond: mon clown. Elle décide de le suivre, alors d'abord en tant qu'observatrice, et puis très vite elle commence à prendre part aux excursions clownesques à l'hôpital. Mais ce n'est pas si simple. Alors déjà parce qu'elle a des béquilles, et puis aussi parce que ce monde, eh bien, elle ne le connaît pas. La différence entre un acrobate et un clown, son pote lui révèle, un acrobate on l'admire, un clown on l'aime.
Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait.
Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi.
Aïe. Avec Sur un fil, Reda Kateb cerne bien son sujet. Il montre comment les clowns interviennent dans le milieu hospitalier. C'est la partie programmatique. L'accueil, les enjeux, les enfants, les situations qu'ils rencontrent, l'attitude des parents, des soignants. Et comme ce sont des clowns, eh bien, on y prend du plaisir. Mais le comédien réalisateur qui s'est inspiré des actions de l'association Le Rire Médecin prend également le parti de montrer comment être clown à l'hôpital est un métier, donc ne s'improvise pas et exige une formation, des entraînements et un suivi.
On ne peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous.
Je ne sais rien. Comment on fait pour trouver la bonne distance?
On pleure parfois et puis on partage les sourires quand ils sont là.
Alors cette dimension du travail nous est ouverte grâce au parcours de Joe qui découvre eh bien, tout un monde caché de tous. Ce parcours est l'épine dorsale du récit qui s'incarne dans une histoire personnelle où le doute, l'impréparation, la fragilité aiguisent les problématiques. Reda Kateb, rencontré au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, a insisté sur la distance qu'il voulait prendre avec le sujet pour bien l'exposer, mais aussi la place qu'il voulait trouver pour mieux raconter une histoire. Il nous immerge dans son film avec une séquence alors grandiloquente qui magnifie le cirque, le spectaculaire. Et une fois que la caméra quitte les airs, elle sera vissée sur l'épaule du cadreur. Et c'est à cette échelle que sont prises toutes les images qui vont suivre. La mort, si elle reste présente dans les centres hospitaliers accueillant les enfants, est ici quasiment tout le temps hors champ, de même qu'une histoire sentimentale qui aurait pu lier, un clown avec un soignant, un parent ou un autre clown, un autre réalisateur, un autre scénariste nous aurait évidemment placé une histoire, pourquoi pas, sentimentale. En moins de 2 heures, Reda Kateb nous épargne ça, ce qui ne l'empêche pas de miser sur l'émotion, le rire, l'émotion, le rire, l'émotion, le rire. Le film avance à la manière d'une montagne russe que l'on emprunte, mais vraiment sur un fil avec une certaine douceur. Alors là, j'ai choisi le mauvais extrait pour parler de la douceur, évidemment, parce que ces enfants, tout n'est pas simple. Et ça aussi, on le voit, les enfants ne sont pas tout le temps préparés à accueillir le clown. À chaque fois, il faut leur acceptation. Tout ça est très bien montré. En privilégiant son thème, en montrant le travail du clown, sa fonction et son importance dans la guérison des enfants, et c'est très important, en collant à ses personnages, à leur motivation, Reda Kateb livre un film d'une belle maîtrise, sans aucune fausse note, à mon sens. Et à propos de notes, la musique d'abord électro se transforme en note de piano, car si notre regard change sur le clown et sa fonction à l'hôpital, les sentiments du personnage de Jo évolue aussi grandement. Elle se réconcilie avec elle et les autres. Nous allons entendre le comédien et donc nouveau réalisateur Reda Kateb qui nous parle de Sur un fil.
Moi, mon but, c'était de raconter une fiction, mais dans un décor, dans un territoire, dans un ensemble qui soit le plus juste possible. On a utilisé volontairement des manières de filmer différentes. Cette première partie, enfin, en tout cas ce prologue, cette scène d'ouverture, je l'ai voulu à dessein assez esthétisante, un peu froide, en utilisant des artifices d'un cinéma qui pourrait être presque clipesque à certains moments. Le code que je m'étais fixé, c'est qu'à partir du moment où Joe tombe, on est caméra à l'épaule tout le film. Donc il y avait cette volonté de faire tomber la caméra d'une grue et ensuite de la poser sur les épaules du chef opérateur.
Je peux même plus payer mon loyer. Tu fais comment, toi ?
J'ai mon clown. C'est spécial.
Quand j'ai découvert Jean-Philippe Buzot dans un documentaire qu'avait réalisé Sarah Giraudot sur Arte, j'ai eu un coup de foudre total pour Roger Chips, pour son clown. J'ai trouvé ce clown qui est pas seulement drôle, mais qui amène aussi avec lui tout un univers, une poésie, plein de choses qui sont difficiles à expliquer, mais en tout cas, il était infiniment inspirant. Donc on a commencé à écrire pour lui avec Fadette Drouard. Et en effet, Jean-Philippe est clown horreur médecin depuis 30 ans maintenant. Et une semaine après le tournage, dans notre faux hôpital, il était à nouveau dans les chambres des enfants. Et quand il en parle, il dit « c'est le plus beau métier du monde ». Voilà, pour lui, c'était assez étrange parce que c'était sa vie reconstituée dans un décor de cinéma. J'avais l'impression que c'était The Truman Show, quoi, au début.
Je te présente Thierry.
Thierry,
Jo, elle vient observer avec nous.
Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie.
On va pas le voir du tout aujourd'hui ?
Je pense pas.
Pour faire un film, il y a un point de vue, il y a un angle. Et moi, j'ai choisi celui des clowns. Donc... il n'y a pas de morbidité chez le clown. Il est dans le présent comme l'enfant. Et l'enfant qui va mourir, c'est terrible, mais moi, je le sais désormais. Il peut jouer encore avec son Playmobil une demi-heure avant. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui nous bouleverse chez les enfants. On parlait de la juste distance ou des liens qu'on tisse avec le spectateur. Mon envie n'était pas celle de tisser un lien ni de voyeurisme avec le spectateur, ni de suspense. L'enfant va-t-il mourir ou pas ? C'est pas ce que je raconte, quoi. C'est vraiment pas ça.
Tu me dirais pas quelque chose ? Parce que si t'es clown, tu mets ton nez. C'est le plus petit masque du monde.
Attends, me dis pas que c'est un vieux à toi.
Eh oui, c'est celui que je mets quand je suis enrhumé.
Moi, avant de lire ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi, c'était des bénévoles qui faisaient ça. Et qui avaient peut-être une aide psychologique enfilée, quoi, pour s'aider. Mais j'imaginais pas à quel point... Il prenait ça très au sérieux. En fait, c'est très sérieux d'être clown à l'hôpital.
Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown ?
Non.
Un acrobate, on l'admire, le clown, on l'aime. Voilà.
Nous écoutions Reda Kateb qui nous parlait donc de son premier long-métrage Sur un fil en salle depuis le 30 octobre. Repli identitaire en France, questionné dans un documentaire. Nous parlons eh bien, du repli.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe.
Au vu des résultats des dernières élections législatives marquées par l'implantation un peu décisive du RN, hein, désormais premier parti de France, Le Repli est un documentaire fascinant qui tente de répondre à la question avec un parti pris très orienté. Comment en sommes-nous arrivés là ? Le fameux repli n'est pas celui des communautés musulmanes, mais bien celui d'une France conservatrice terrorisée par l'altérité plus que jamais. Le projet du cinéaste Joseph Paris s'inscrit hein, dans la continuité d'une série de chocs, les attentats de 2015 suivis par les positions radicales d'un gouvernement qui n'était pas de droite à ce moment, la proclamation de l'état d'urgence et le discours sur la déchéance nationale. Alors, pour éviter le tract idéologique simpliste, hein, l'angle choisi par le réalisateur est celui de suivre Yasser Louati, militant des droits de l'homme, président du comité Justice et Liberté. Yasser est un acteur central du documentaire sur tous les fronts, notamment au sein du dispositif médiatique. Il intervient souvent sur des chaînes étrangères, apportant une nuance à une pensée réductrice qui tend à amalgamer tous les musulmans. Il devient ainsi le fil rouge d'un documentaire édifiant couvrant près de 40 ans de vie politique depuis les débuts de la gauche au pouvoir dans les années 80 jusqu'au gouvernement Macron qui a notamment promulgué la loi sur le séparatisme en 2021 destinée à l'origine à combattre l'intégrisme musulman. Alors qu'en réalité, cette loi affaiblit les plus faibles et les minorités, notamment tout le secteur associatif.
L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières.
Joseph Paris éclaire les événements récents hein, d'une analyse percutante décrivant l'état d'urgence comme un véritable laboratoire d'expérimentation politique flirtant avec une forme de fascisme. Le film met en lumière les attaques contre les associations militantes, les raves policières, les interdictions de manifester. La dénonciation d'un recul des libertés fondamentales n'est jamais manichéenne. Les auteurs retracent les origines même de ce repli identitaire qui ne sont pas nés avec une extrême droite minoritaire à l'aube des années Mitterrand. Alors ce n'est pas le FN qui a contaminé le champ politique mais la gauche qui a stigmatisé les musulmans grévistes, alimentant ainsi une islamophobie naissante. En effet, à l'époque, les socialistes, ne pouvant plus soutenir les grévistes, ont adopté une stratégie de division des travailleurs. Ils ont réussi à isoler la communauté arabe dont les grèves étaient perçues comme religieuses, représentant ainsi une menace pour l'État laïque. Alors les conséquences de cette stratégie, appuyée par des images d'archives, sont visibles à travers une augmentation des incivilités et actes racistes des bons Français. Alors depuis 81, cette islamophobie s'est enracinée dans la sphère public, d'abord sous des formes discrètes, puis de manière de plus en plus explicite, jusqu'à devenir un pilier de certaines idéologies politiques actuelles. Alors le film montre très bien comment cette hostilité a non seulement impacté la perception que la population a de l'islam, mais aussi ouvert la voie à des restrictions des libertés individuelles.
Que doivent vivre les 19-20 ans qui sont noirs ou arabes, qui débarquent sur le marché du travail, dans un climat où vraiment l'islamophobie s'est vraiment décomplexée ?
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi.
Le cinéaste exprime donc une déception hein, en montrant que la montée de la peur des étrangers alimentée par les médias n'a pas eu besoin de Jean-Marie Le Pen. Les idées nauséabondes lui ont juste ouvert un couloir. Le documentaire rappelle d'ailleurs pendant longtemps que le FN, bien qu'ouvertement raciste, n'était pas islamophobe par respect pour la religion, qui était l'un des fondements du parti, proche du catholicisme dès ses origines. Alors, si le fond est passionnant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'un film de cinéma avec une forme dynamique et esthétisante convoquant un régime d'images très varié, hein, un montage cut alors parfois crispant et des effets de style en décalage avec le propos. Cela dit, cette patine visuelle confère un cachet séduisant, une singularité à ce documentaire nécessaire et émouvant, alors clairement de gauche, hein, tout en étant lucide sur cette gauche qui par crainte d'être accusée de laxisme a parfois adopté des mesures sécuritaires et identitaires. Alors cette vision partiale contredit en partie ce que pense une partie de l'opinion publique hein, avec le fameux slogan islamo-gauchiste. Au final, le repli démontre que le racisme structurel et l'islamophobie ne sont pas des phénomènes épisodiques, mais qu'ils se nourrissent d'une mécanique historique et politique et qui n'arrive pas par hasard. Et ça fait un peu froid dans le dos. En tout cas, voilà un documentaire d'utilité publique qui, sans nul doute, ne prêchera que les convertis.
Le repli est en salle depuis le 30 octobre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et on retournera à Cannes et encore pour un prix, Sophia.
Oui, moi j'ai vraiment décidé de te titiller. Donc après la Palme d'Or que tu ne plébiscites aucunement, on va maintenant parler la semaine prochaine de The Substance qui a été prix du scénario à Cannes.
Et toi Guillaume, deux films.
Oui, alors moi un documentaire L'ombre du commandant et un film de fiction Louise Violet.
Et moi, eh bien, je vous parlerai d'une comédie qui s'appelle À toute allure avec Pio Marmaille. À la semaine prochaine.